Avant, la bourse cash, Eric Blaine nous accompagne, directeur de la gestion action de Swiss Life Banque Privée. Bonjour Eric, ravi de vous retrouver. Vous voulez dire aujourd'hui Eric, leurs quatre vérités au marché, vous êtes sûr ?
Absolument, j'en suis sûr.
Vous venez pousser Eric aujourd'hui un véritable ouf de soulagement sur les résultats de Capgemini. Vous jugez le cours de Capgemini même attractif, vous l'assumez ?
Absolument aussi, je l'assume.
Un ouf de soulagement sur les résultats de Capgemini. Alors que les chiffres sont en repli et vous dites que vous l'assumez. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Le fait que vous soyez si soulagé par les résultats de Capgemini qui quand même recule. L'arbitrage du marché lui est négatif. Le titre perd plus de 2% cet après-midi, Eric.
Absolument. Hein. On a une publication avec un recul de 3,6% à périmètre comparable du chiffre d'affaires. Le consensus s'est situé à moins 3,8%. Et ce que je trouve agréable, quelque part dans ces chiffres, c'est que, c'est plutôt en ligne avec les attentes, comme on vient de le voir. Et donc, les inquiétudes des investisseurs étaient extrêmement importantes après le profit warning d'Accenture et les quelques publications précédentes qui avaient laissé quand même un mauvais goût aux investisseurs. Là, on a quand même un premier trimestre qui est en ligne, une guidance annuelle qui est maintenue, et globalement, un ton dans le communiqué sur ces perspectives qui est également positif. Moi, j'ai apprécié le fait de pouvoir lire dans le communiqué que le premier trimestre est avancé comme le point bas, avec une reprise modérée tout au long de l'année. Et donc, même si le deuxième trimestre devrait aussi rester faible, on s'attend à ce que la croissance redevienne positive à partir de septembre pour une croissance plus vigoureuse à partir du quatrième trimestre de l'année 2024 et 2025. Donc, on est à un point bas, on n'a pas de mauvaise surprise sur cette publication, on a un communiqué qui reste positif. Et puis, en termes de métier, on sait à quel point Capgemini est engagé dans le numérique et le cloud, donc l'intelligence artificielle au global. Et là, on voit dans la division stratégie et transformation, il y a une croissance de 1,6%. Et ça, c'est quand même très positif pour tout ce qui est demande des entreprises sur l'intelligence artificielle générative. Donc oui. Moi, je suis plutôt rassuré après la baisse du titre et ça m'inciterait plutôt à revenir sur les cours actuels.
Le discours de Capgemini, c'est vrai, est encourageant. Ils disent observer également des signes de reprise en Amérique du Nord. L'effet de base au deuxième semestre sera aussi beaucoup plus favorable manifestement pour Capgemini. Et pourtant, le marché, lui, n'achète pas. Comment est-ce qu'on l'explique? Alors, vous dites tant mieux, ça fait un point d'entrée pour vous. Enfin, vous dites que ce titre Capgemini, il est sous-coté, il mériterait de rebondir nettement. Pourquoi le marché ne partage pas ce point de vue aujourd'hui, d'après vous, Eric ?
Je pense que sur la communication en tant que telle, on a encore un deuxième trimestre qui va rester en petit recul. Donc, ça fait maintenant trois trimestres qu'on a depuis l'été 2022 qu'on a des décélérations de croissance organique. On est passé en négatif au quatrième trimestre. Au premier trimestre, la croissance négative s'accélère. Et au deuxième trimestre de l'année 2024, on va certainement tourner autour de zéro. Et donc, je pense que le ton encore mitigé du management fait que en ce moment on est un petit peu en train de prendre des profits sur les valeurs de croissance et donc ça entraîne le marché à être prudent. Mais justement, je pense que c'est des bons points d'entrée pour se réintéresser à ce titre qui vient quand même de 227. Là on s'approche des 200 €, je trouve que ça commence à être des points intéressants. On est sur des PER donc qui sont de 15,4 fois 2025. Donc c'est au moins un point de moins que les 10 dernières années, alors que la croissance devrait s'accélérer sur le deuxième semestre. Moi, je trouve que c'est des moments de regarder.
Et ben voilà, le message est dit. Il y en a beaucoup des publications. Etienne nous appelle, la Tour Euronext, 15h47. Effectivement, c'est l'une des nombreuses baisses du jour, Capgemini, et notre CAC 40 qui, du coup, est emporté globalement. On a un CAC 40 qui termine ce mois d'avril pluvieux, encore sous la pluie aujourd'hui, Etienne.
Oui, très clairement, avec un indice qui essaye néanmoins depuis l'ouverture de Wall Street de grappiller quelques points, mais que c'est compliqué. Moins 0,6% à 15h30, moins 0,5% à l'instant. Les 8000 points qui sont à nouveau en danger. 8024 points pour l'indice parisien. Alors c'est du rouge aux États-Unis, on l'a vu à l'ouverture. C'est du rouge également pour le DAX qui perd 0,5 ou encore l'Eurostox qui perd 0,6. Secteur automobile qui est plombé aujourd'hui par Stellantis qui perd quasiment 8%. Vous avez Volkswagen et Mercedes également qui sont en baisse à Francfort. fort. Et puis, dans le même temps, il n'y a pas vraiment de relais à la hausse aujourd'hui. Certes, certaines valeurs défensives tentent de surnager, mais il n'y a pas de gros mouvements avant, bien sûr, une séance de pause demain avec la Fed demain soir. Et puis aussi, quelques publications qui sont attendues dans les prochains jours, mais les grosses pondérations ont d'ores et déjà publié. Néanmoins, il sera intéressant de suivre Téléperformance qui publiera ses résultats. Ça sera ce soir après la clôture.
Effectivement, puis aux États-Unis, Amazon, à ne pas rater après la clôture de Wall Street ce soir. Eric, Étienne le disait à l'instant, -7,5 ce titre Stellantis aujourd'hui. Alors c'est quand même le carton depuis le début de l'année, Stellantis, Renault, les deux cartons sur le CAC depuis le début de l'année. Mais là, d'un seul coup, un petit revirement à -8. On peut même parler d'un revirement qui devient un peu sérieux. Est-ce que pour vous, voilà, la dynamique du début d'année est mise en cause sur un groupe comme Stellantis et puis Renault aussi qui est emporté à -5,5 cet après-midi?
Oui, c'est quand même très dur dans ce secteur-là. On le sait bien, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur la présence de la Chine en Europe et la pression sur les prix avec l'exportation d'une déflation, avec des producteurs qui n'hésitent pas donc à produire et à exporter. Donc on parle en Europe d'augmentation de droits de douane sensibles pour protéger les acteurs européens. Donc on est dans cette période difficile, faut bien reconnaître. L'acteur qui me semble le plus fort, c'est clairement Stellantis, notamment parce qu'il n'est pas en Chine, donc ça c'est quand même une bonne chose. Et puis parce qu'il a toujours été extrêmement réactif en termes de management et il fait plus attention donc aux marges qu'au volume. Alors là, il y a une petite indication dans ce premier trimestre qui est de dire qu'il y a une pression sur les marges. Donc ça, évidemment, ça ne plaît pas au marché, c'est pas surprenant. Mais je pense que le guidance sont réitérés et qu'on peut faire confiance au management pour justement donc pouvoir donc conserver des marges élevées, supérieures à 10%, et avoir une belle vision sur son modèle. Donc on savait que les volumes seraient faibles sur ce premier trimestre. On s'y attendait. Le premier trimestre n'a jamais été très fort pour Stellantis. Donc en allant donc maintenant après cette publication, on va vers le Capital Market Day. Je trouve que ça va être intéressant. Et donc le repli des cours est intéressant. Alors on n'a pas acheté aujourd'hui, mais clairement ça nous semble intéressant. Pour ceux qui ne sont pas positionnés sur Stellantis, de reprendre position et nous-mêmes, il n'est pas impossible qu'on remonte donc nos expositions sur le titre.
Bah pourquoi pas. En tout cas, des effets de déstockage aussi qui, avant l'arrivée des nouveaux modèles, pèsent sur la performance du premier trimestre et notamment en Europe. Petite déception sur l'Europe particulièrement. Effectivement, et Stellantis qui recule de quasiment 8%. Et justement, vous parliez de la Chine, de la concurrence sur les prix, c'est notre question sur nos réseaux sociaux, notre fil X, BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi, chacun peut s'y abonner. Cette question qu'on vous pose aujourd'hui, parmi les nombreux constructeurs automobiles qui publient en ce moment, et particulièrement aujourd'hui, lesquels parviendront à préserver les tarifs de leurs véhicules? Est-ce que ce sera Mercedes qui justement dit vouloir maintenir le prix de ses véhicules et ne pas entrer dans une guerre de prix? Donc est-ce que ce sera Mercedes? Est-ce que ce sera Stellantis? Est-ce que Volkswagen parviendra à préserver ses tarifs ou Renault? Vous êtes nombreux à voter. N'hésitez pas à nous laisser également vos arguments en commentaire. Pour vous, Eric, lequel de ces constructeurs sera le plus à même de, préserver ses tarifs à l'avenir malgré la concurrence chinoise?
Comme je le disais, je ferai confiance à Stellantis et ensuite pour sa gamme effectivement et la communication du management, effectivement suivrai Mercedes. Je pense que ils ont la capacité et la marque et les produits pour maintenir en fait des prix élevés et se permettre en fait de perdre en volume pour conserver leur marge.
Et puis il y a un autre match aujourd'hui du côté des publications, c'est dans la nutrition. On le disait, McDonald's et Coca-Cola publient leurs résultats, Starbucks aussi. Puis en face, les pilules coupe-faim, les anti-obésité, et Eli Lilly qui fabrique ces médicaments anti-obésité aussi publie. Voilà, c'est le hasard des agendas, hasard ou pas d'ailleurs. C'est intéressant, c'est vraiment aujourd'hui le match qu'il faut suivre, et cette bataille. Donc à ma droite, McDo, Coca et Starbucks, à ma gauche, Eli Lilly. Pour vous, Eric, à qui l'avenir appartient-il? À des groupes comme McDo, Coca, qui sont en train peu à peu malgré tout de se transformer, ou plutôt un avenir qui appartiendrait à Eli Lilly, voire Novo Nordisk, qui annoncera aussi ses résultats en fin de semaine?
Ah bah, c'est clair que les médicaments contre l'obésité, aujourd'hui, on le vend en poupe. On voit les évolutions de cours de bourse, on voit les croissances bénéficiaires, sont de plus de 40%, donc c'est vraiment énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que les révisions sont en hausse. Donc lorsqu'on regarde à la fois l'évolution du cours de bourse, les révisions de croissance bénéficiaire et on voit les publications, on voit bien qu'aujourd'hui, Eli Lilly remonte en fait ses guidance. Donc là, on a on a un vrai push, on manque de capacité de production, et donc même si les titres sont très élevés aujourd'hui, la croissance est là, et donc les titres remontent. Après une petite consolidation, il y repart, et je ne suis pas surpris. Entre McDo et Coca, c'est un peu différent effectivement, puisque à la fois donc on a des cours qui ont quand même pas mal baissé pour les deux dans le même ordre, mais la différence c'est que il y a pas de révision bénéficiaire ni dans un sens ni dans un autre pour Coca-Cola jusqu'à maintenant. Là, on a un management qui relève ses guidance pour l'année avec des croissances de 7%, donc une publication qui est clairement bien prise et plutôt positive, avec une croissance de 8 à 9% cette année, et on se paye à peu près un PER de 20 fois. Ce qui est l'équivalent de McDo, sauf que McDo, bah malheureusement, il espérait aussi une croissance de l'ordre de 8%, mais lui, il est mal orienté avec des révisions bénéficiaires, elle à la baisse et des déceptions. Donc clairement, ce qui se détache, c'est Eli Lilly et donc la gamme obésité, c'est clair. Et Coca-Cola maintient ses positions encore avec une capacité à profiter d'une consommation qui se tient bien aux États-Unis et un bon management. Donc c'est plutôt ouais. Sur ces deux titres que je resterai.
Et d'ailleurs, c'est le choix du marché. Coca-Cola gagne 1% à Wall Street et là, Eli Lilly 6% désormais. En revanche, McDonald's, après sa publication, perd un peu plus d'1%. Avec en plus, on en parlait avec John Plassard tout à l'heure, le boycott croissant manifestement de ses produits. Boycott croissant des produits McDo au Proche et Moyen-Orient. Merci beaucoup Eric de nous avoir accompagnés. Eric Blaine depuis les bureaux de Swiss Life, banque privée.